BFM Plus présente l'interview de l'été.
Votre rendez-vous du moment, l'interview de l'été, été 2023 précisément. Ravi de vous retrouver sur FM+. En ce beau jour caniculaire, il fait chaud, on peut le dire, mon cher Sébastien Toureil.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien ?
Oui, ça va très bien, merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, organisateur des Trans7ol, ce festival éclectique et indépendant qui se déroule le 22 et le 23 juillet à Sumène dans le Gard. Tu viens du Gard, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et t'es venu jusqu'ici exprès pour en parler.
Eh oui.
Ouais, ça vaut le coup, effectivement, c'est la 26e édition. 26 ans déjà, faut pas rater ça. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Deux jours de concerts, de spectacles, de débats et de rencontres au cœur du village Sevenol de Sumène. Ça va être incroyable. En plus, je crois que c'est gratuit en journée, pas très cher en soirée. On a des tarifs entre 13 € et 25 €. Donc franchement, il y a de quoi faire. Ça reste hyper accessible. Et moi, je me demandais, Sébastien, le festival Les Trans Sevenol, ça n'a rien à voir avec le transhumanisme ?
Non, ça n'a rien à voir avec le transhumanisme. J'aurais plutôt tendance à dire que ça pourrait avoir un rapport avec les trans musicales.
Ah, c'est vrai.
C'était un petit clin d'œil à ce festival breton qui propose beaucoup de groupes découvertes chaque année.
Ouais, et on va en retrouver un pendant ce festival. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout de suite le teaser de ce festival et on en parle juste après. Comme ça, c'est aussi une manière de les découvrir. À tout à l'heure.
3, 2, 1, action !
Ça en fait mon âne, nous qu'à crier, mais nous pas connaître rien. Les miens là, nous bébé, il faut nous goûter, parce nous pas connaître rien. Si mélo, si mélo, si mélo, si mélo.
Voilà donc pour le teaser de ce festival Les Trans Sevenol. On est toujours avec Sébastien Toureil, organisateur de ce beau festival. Un teaser officiel, il faut le dire, par un certain Otus Productions. Il faut les citer, c'est important. Merci à eux. Très beau, très beau, très beau teaser d'ailleurs.
Tout à fait. Clément Iserman, qui est vidéaste historique des Trans Sevenol depuis plus d'une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais. Et qui chaque année nous fait des superbes teasers et qui a réalisé d'ailleurs un documentaire sur les 20 ans du festival. Voilà, documentaire que vous pouvez visionner sur le site ou sur les réseaux sociaux.
On ira checker ça, ça donnera encore plus envie de participer au festival. Et je le disais, donc deux jours au total, avec en journée, concert, théâtre de rue, cirque, projection, débat et atelier, c'est gratuit. C'est un choix en particulier de cette gratuité, cette accessibilité-là en journée
Oui,
c'est juste la tradition.
Non, c'est complètement assumé. Ouais. Les Trans Sevenol, c'est né d'un festival de musique à l'origine dans les années 90.
Ouais.
Et puis en 1999, on a découvert le théâtre de rue en allant sur le Festival International d'Aurillac, et on a trouvé cette discipline artistique absolument phénoménale et surtout un très bon outil pour aller chercher des nouveaux publics, pour aller sensibiliser les habitants de Sumène. Et du coup, dès l'année 2000, en fait, on a intégré une programmation d'art de rue gratuite, ce qui nous permet d'occuper en fait tout le village, de jouer avec ses places, avec ses ruelles, avec ses divers lieux publics. Et voilà, ça fait vraiment partie du concept artistique du festival. Et puis la gratuité, ça facilite aussi l'accessibilité à tous les publics et à toutes les bourses.
Et merci pour ça, c'est génial. Peut-être parler un petit peu des artistes que l'on va retrouver en journée. Je crois qu'il y a par exemple la compagnie L'Art Osé, c'est du théâtre de Montagnac, je crois.
Oui, c'est ça, c'est une compagnie héraultaise bien connue pour son duo Jacqueline et Marcel. Ouais. Et ben là, c'est Jacqueline toute seule, en l'occurrence Christelle, la comédienne, qui a monté ce projet qui s'appelle Gloria, ouais. Où elle est accompagnée d'un musicien. Et en fait, c'est l'histoire d'une princesse qui était tellement belle qu'elle a dû être enfermée par ses parents dans une tour pour la protéger et qui en ressort 45 ans plus tard.
Ça nous arrive tous les jours.
elle attend toujours l'amour. Et donc, en fait, c'est un spectacle qui est comique, plutôt absurde et décalé. Et tout le sel de la représentation se joue sur je sors de ma tour, et il est où mon prince charmant ? Ouais. Et donc là, il y a un rapport avec le public, il y a un côté participatif qui est plutôt assez drôle. Et voilà, donc c'est une création, c'est un projet que Christelle a créé cette dernière année. Donc on lui file ce coup de pouce, on lui donne une visibilité sur les Transsevenols pour lui permettre de le jouer et puis de rencontrer peut-être un public et éventuellement des professionnels.
Un spectacle interactif, c'est génial.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est un conte fantastique qui se déroule peut-être un peu aussi dans le monde actuel.
Des références au monde actuel, quoi, mais voilà. Après, faut
aller voir
la comédienne. Ouais, voilà, c'est du texte, mais il y a un côté très, très clownesque, cynique, décalé. Ouais. Ça parle de la beauté, ça parle de la non-beauté, ça parle de l'amour, ça parle de ces choses-là. Quoi, mais avec beaucoup de dérision.
Ouais. Écoute Sébastien, moi j'ai un listing avec plein d'artistes, mais peut-être qu'il y en a certains que tu veux citer parce que ça t'a marqué.
Oui, en tout cas sur la programmation théâtre de rue en journée, on peut aussi parler de la compagnie Théâtre Groupe avec le solo Monsieur Patrick. Théâtre Groupe, c'est une compagnie vraiment historique du théâtre de rue, ça tourne depuis les années 80, ils ont vraiment participé de la structuration de cette esthétique en France. Et on les avait déjà accueillis il y a une vingtaine d'années sur le festival avec un spectacle formidable qui s'appelait La Jurassienne de réparation. Et donc là, Jouf, qui est le directeur de la compagnie, revient avec ce projet personnel qui s'appelle Monsieur Patrick. Et donc c'est l'histoire d'un onologue, d'un commercial qui écume un peu les foires et les salons vinicoles en France. Et donc il fait des dégustations de vin. Et donc c'est ce qui va se passer avec le public. Et puis au bout d'un moment et au bout de quelques verres, forcément cette dégustation prend une tournure beaucoup plus personnelle et subjective et Monsieur Patrick commence à raconter sa vie, ses déboires, ses ratés, etc.
Génial.
Et ça devient un moment assez, assez touchant et avec toujours cet humour qui est très fin qui est présent là derrière et voilà, et une vraie dégustation de vin pour le public aussi, quoi.
Un bon cru ce spectacle.
Voilà. On l'espère.
On ira goûter en tout cas. Y en a un qu'on retrouve, une compagnie qu'on retrouve dans le teaser, je crois, c'est la compagnie, je ne sais pas si je le dis bien, Oxyput.
C'est ça. Compagnie Oxyput, c'est une compagnie qui nous vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont dans la Drôme.
Ouais.
Et donc c'est quatre danseuses et une DJette. Et en fait c'est un spectacle qui va à la base traiter de la raréfaction des ressources, du pétrole, etc., etc. C'est de la danse.
Ouais.
Et donc c'est de la danse avec de la musique électro. Ça part sur des chorégraphies plutôt orientées vers le pogo.
Mm-hmm.
Et donc c'est un spectacle qui est très engagé, féministe et à la fois très, très dynamique, etc. sur scène. Ça se joue à 360 degrés, c'est-à-dire que le public est...
Mais non.
Voilà, c'est un cercle.
Ouais.
Avec le public qui entoure les danseuses. Et il se termine même par un set techno fin, qui peut durer un quart d'heure, une minute, on verra. Ça dépendra un petit peu de l'état d'esprit du moment. Et c'est un de nos temps forts du festival. La compagnie jouera les deux jours en fin d'après-midi.
Ouais.
À la place de l'ancienne gare.
Elle se décrit comme une compagnie de danse bruyante.
Ouais,
ça va être le cas.
C'est le cas.
En cercle, comme ça donne un peu l'impression que ça va être une battle. Il faudra peut-être s'attendre à danser.
À la fin du spectacle, le public est invité à danser avec elle sur la piste. Quoi.
Génial.
Voilà. Ouais, ouais.
Je te laisse faire ton listing si jamais tu as des artistes en particulier. Sinon, j'ai par exemple la Coco Fanfare Club.
Oui.
C'est quoi cette histoire de
Coco Fanfare Club, elle va jouer le dimanche 23 juillet.
Ouais.
Elle jouera sur le temps de l'apéritif, on va dire, vers 12h30. Et puis, une deuxième partie où elle va faire une déambulation dans le village. La Coco Fanfare, en fait, c'est une fanfare de Montpellier.
Mm-hmm.
Donc, ils sont une vingtaine de musiciens et de musiciennes qui reprennent des standards d'aujourd'hui. Avec une énergie qui est très communicative. Ils sont déguisés, il y a des mises en scène. En fait, il transpire vraiment une convivialité, un plaisir de jouer de la musique qui devrait, comme ça, emporter le public du festival. Et je voudrais juste faire un focus sur ce deuxième temps de la déambulation parce que c'est un moment qui a marqué l'histoire du festival, la déambulation.
Oui.
Depuis des années, il y a toujours eu une fanfare qui traversait le village avec les festivaliers qui la suivent. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu l'occasion de le refaire. Et là, on avait envie de reposer ce marqueur-là, parce que c'est aussi une façon de découvrir le village. Je rappelle, Sumène, hein, c'est un petit village des Cévennes, 1500 habitants. Ouais. Voilà, il y a le charme, un peu l'austérité de ces villages de montagne. Mais voilà, c'est, nous on aime bien notre village, on aime bien le mettre en valeur par l'art et les spectacles. Et donc ça va permettre aussi d'aller dans une partie du village qui n'est pas forcément exploitée par le festival. Donc ça permettra à tout le monde, à tous les habitants et les habitantes d'en profiter.
Ça s'entend qu'il y a beaucoup d'amour en tout cas.
Oui, c'est vrai.
Ça doit faire drôle d'ailleurs de voir tout ce beau monde débarquer dans ce petit village.
Ah ben oui, c'est un plaisir. Hein. Bon, c'est une organisation aussi parce que les Transcévenols, avec cette nouvelle formule-là, on est à peu près à 6000 spectateurs attendus sur l'émission, sur un petit village, donc je le répète, 2500 habitants. Donc c'est vrai que nous, c'est toujours un plaisir de voir les gens qui arrivent, les familles, des jeunes, des moins jeunes, et qui arrivent de toute la région. Et voilà, puis ça participe aussi de l'image du village, ça fait vivre les commerces. Enfin voilà, on a vraiment cette sensation d'être utile à plusieurs endroits, quoi. Voilà. Oui.
Peut-être pour finir sur la partie journée, un dernier artiste, une dernière compagnie.
Oui, alors je pourrais. Il y en a vraiment plein, mais je pourrais dire un mot sur la compagnie Lanour aussi, avec le spectacle Mektoub. Donc là, on est dans une. C'est une comédienne. Alors on peut dire que c'est une forme de stand-up dans la rue avec du cirque. Voilà. D'accord. Donc voilà, Lanour, c'est l'histoire d'une double culture française maghrébine. C'est l'histoire d'une comédienne qui va jouer plusieurs personnages. Il y a vraiment ce côté stand-up avec tout ce que ça peut générer aussi sur des questionnements personnels, etc. Il y a de la prestation circassienne avec du hula hoop. Il y a un formidable rapport au public. Il y a quelque chose une espèce d'osmose qui se dégage de ce spectacle. En tout cas, c'est une sacrée performance que j'invite à venir découvrir.
Tu donnes très envie de le voir. Stand-up cirque, là.
Ouais.
J'ai entendu parler de ça, mais génial. Donc ça, c'est pour la journée. Hein. C'est quelques exemples d'artistes et de compagnies gratuits. On passe à la soirée. Cette fois-ci, payante, 15€ pour la soirée et 25€ le pass festival pour les deux jours. Rapidement, avant de parler des artistes, qu'est-ce qui peut justifier, entre guillemets, le fait que ce soit payant en soirée? Peut-être beaucoup plus de moyens, de ressources?
Oui, disons qu'à un moment donné, il faut bien que le festival génère un peu de ressources propres. C'est vrai que pendant 5 ans, on a tenté une formule du festival où tout était entièrement gratuit, jusqu'en 2020. Ouais. Mais depuis, ça fonctionnait parce que les buvettes tournaient plein pot, parce que les gens participaient au chapeau, etc. Et parce que aussi on avait des financements publics. Depuis la crise, les financements publics se restreignent un peu. Donc la seule façon qu'on avait de maintenir un certain niveau de qualité sur les soirées, c'était de les repasser en payant, mais avec cette attention à l'accessibilité, encore une fois. Et donc oui, effectivement, cette année, on est sur des tarifs par soir à 15€, 13€ tarif réduit, ou 20€ tarif de soutien pour ceux qui le souhaitent. Et avec l'occasion là de découvrir un site avec une scénographie magnifique porté par le radeau de l'hypoténuse, et puis trois concerts professionnels, de qualité, etc. quoi.
Ça reste quand même hyper accessible, justement, mais ces professionnels-là, on peut en parler. Il y a une rappeuse de Roubaix, je crois, et ça, Yasuke.
Oui, tout à fait. Ah ben ça, c'est un des coups de cœur du festival.
Ouais.
Artiste découverte en 2022 sur le printemps de Bourges.
Ouais.
Voilà, on est sur une... c'est une poétesse, elle a une véritable écriture. C'est vraiment une belle présence sur scène. Elle sera présente avec un DJ et un danseur. Du coup, il y a vraiment tout un concept qui sera présenté. Issa Yazuke, elle a sorti un EP, là au mois de mai qui s'appelle Prophétie. Ce qui est intéressant avec cette artiste, c'est que petit à petit, elle prend sa place. Comme elle le dit elle-même, elle prend son temps. Elle y va doucement, mais elle y va sûrement. Je pense que sur les années à venir, ça peut potentiellement, après on ne sait jamais, mais ça peut être une artiste rap qui peut vraiment s'installer dans la durée. Elle a été réinvitée cette année sur le printemps de Bourges pour son propre spectacle. Et parallèlement, elle a même été invitée par Oxmo Puccino pour la création spécifique qu'il faisait pour le festival. Donc, pour moi, ça donne un peu une couleur.
Ouais.
Elle a gagné plusieurs prix. Elle a gagné le Buzz Boosters il y a 2 ans, qui est le dispositif national hip-hop. Voilà, donc c'est ce genre d'artiste-là que j'invite vraiment à aller découvrir, qui est vraiment dans la profondeur, quoi.
Ah bon, on se rappellera qu'elle était passée par semaine quand elle sera tout là-haut. Eh oui.
Il y en a quelques-uns qui sont passés chez nous et qui après ensuite ont...
T'en as en tête peut-être
Ouais, Bigflo et Oli.
Ah ouais,
rien que.
Et ils sont passés par là?
Ouais, tout à fait.
Rah, comme quoi. Transsevenol, en fait, c'est quoi? C'est un... Comment on appelle ça? Un tremplin.
Nous, on revendique en fait ce fait d'être un festival qui va défricher des nouveaux talents, qui va faire découvrir des artistes intermédiaires. On a eu notre époque où on programmait des têtes d'affiche.
Ouais.
Ça, c'était les années 2000 jusqu'au début des années 2010. Mais après, on a souhaité réorienter notre programmation pour revenir à ces fondamentaux-là. Soyez curieux, venez découvrir des artistes que vous ne connaissez pas forcément ou qui sont en train d'émerger médiatiquement. Et voilà, donc on mène un travail de repérage tout au long de l'année sur différents festivals ou salles de concert de la région ou de France. Et on va chercher vraiment la petite perle qu'on espère un jour peut-être. J'ai parlé de Bigflo et Oli, mais on a accueilli des groupes comme Delgrès, Voodoo Game, General Electric.
Ah ouais.
Tout ça, c'est des artistes qui sont passés chez nous et qui ensuite, après, ont connu un parcours plutôt sympa, quoi.
Et des perles, il y en a encore cette année, après la rappeuse de Roubaix, Essa Yasuke. Il y a un Down the Line, je crois que c'est un métissage entre du jazz créole et de l'électronique.
Ouais.
Comment c'est possible?
Eh bien ouais, mais c'est très difficile à décrire Down the Line tant qu'on ne l'a pas vu. C'est vrai que eux, ils se revendiquent vraiment de tous ces héritages-là, comme tu dis, la biguine, le zouk...
Incroyable.
Le jazz, l'électro, l'esprit hip-hop, le funk, la soul. Down the Line, c'est tout ça. C'est vraiment un groupe multi-influence qui est basé sur Lyon.
Ouais.
Et qui est en train de tout péter, quoi. Moi, ça fait quelques années que je les piste. Je les ai revus au Babel Med à Marseille au mois de mars. Ils ont retourné le Doc du Sud à un quart d'heure. Ils sont programmés sur la Fiesta des Sud justement au mois d'octobre à Marseille. Voilà, c'est un groupe qui commence à tourner aussi à l'international. Ils ont eu pas mal de dates en Angleterre. Là, ils commencent à avoir des touches un peu ailleurs. Voilà, c'est le même endroit de par exemple, d'Isa Yasuke, c'est-à-dire c'est un groupe qui, potentiellement, va devenir de plus en plus repéré, quoi. Et en tout cas, moi, je trouvais ça intéressant sur cette soirée d'ouvrir un peu sur ces esthétiques-là, parce qu'on est sur une soirée aux connotations un peu urbaines, si on prend Datrikaz qui clôturera après. Ouais. Mais là, j'avais envie de faire un pas de côté et d'envoyer aussi un peu sur cet esprit un peu musique du monde, jazz, voilà. Et ça va être très, 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 très énergique aussi sur scène.
Et tu me tends une belle perche pour conclure sur cette soirée, en tout cas. Datrikaz, duo de drill français.
Oui, Datrikaz, c'est deux DJ, deux producteurs. Bon, maintenant, c'est des vieux de la vieille, j'ai envie de dire, puisque ça tourne depuis le début des années 2000. Ils ont fait pas mal d'EP, pas mal d'albums. Ils ont eu des grosses collaborations avec Chinese Man, avec Cassius, avec Wax Taylor, sur cette branche-là musicale. Eux, ils se revendiquent un peu, un peu de bass music, un peu de hip-hop, un peu de drill, un peu de choses comme ça. Dernièrement, depuis quelques années, ils sont très sollicités par des nouveaux noms du rap actuels pour produire des albums. Je pense à Fris Corleone, à des artistes comme ça. Sur scène, ils sont deux machines avec des masques de chat, mais inspirés, on va dire, des mangas japonais.
Ouais.
Ça, c'est un univers qui les porte beaucoup dans leur musique, cette esthétique un peu japonisante ou des musiques un peu plus cinématographiques. Et puis, c'est une grosse énergie, ça envoie du gros son, de la grosse basse. Ils vont slammer dans le public. Là aussi, il y a un côté visuel qui est très important et qui est très intéressant. Et nous, c'est la première fois qu'on finit comme ça, qu'on clôture une soirée avec un projet purement électro, j'ai envie de dire, entre des guillemets. Hein. Et donc, c'est aussi ça, quoi. Les Transsevenol, c'est cette ouverture musicale dans laquelle on assume d'aller, quoi.
Ouais, et ça va envoyer du lourd, sans aucun doute. Peut-être juste avant la pause musicale, un petit mot sur Suzanne Bellobre.
Alors oui, sur Suzanne, elle va se produire, elle, le dimanche 23 juillet, en ouverture sur le site à partir de 20h45.
Ouais.
Suzanne Bellobre, alors elle, c'est la lauréate de notre dispositif de repérage. Alors, de quoi je parle? Depuis 2012, on a créé ce dispositif qui s'adresse en fait aux groupes et aux artistes de la région Occitanie. Donc il y a un appel à candidature qui se déroule pendant l'hiver, qui est diffusé dans tous les réseaux régionaux. Et à l'issue de cet appel à candidature, on réunit un jury qui va sélectionner un ou une lauréate qui ensuite va être accompagné par le festival. Ouais. Alors c'est pas un tremplin classique au sens où il ou elle va gagner le droit de venir jouer sur le festival. Non, l'idée c'est d'être un peu plus constructif et structurant que ça, puisqu'on va mettre en place des rendez-vous diagnostiques, comme on appelle dans le milieu, avec des professionnels, et on va essayer d'accompagner l'artiste dans le développement de sa professionnalisation. Alors ça peut prendre la forme d'accompagnement administratif ponctuel, de conseils stratégiques, d'accueil en résidence, et en l'occurrence Suzanne Bellobre bénéficie d'une résidence de 3 jours à la SMAC Paloma à Nîmes Métropole, résidence au sein de laquelle elle va pouvoir travailler un petit peu la mise en scène, l'enchaînement des morceaux, un petit peu de travail lumière, etc. Et tout ça, c'est pris en charge par le festival et par la SMAC Paloma. Et donc ce dispositif, en fait, il est en partenariat du coup avec Paloma, mais il est aussi en partenariat avec la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas, qu'on connaît bien ici, oui. Qui fait partie intégrante du dispositif. Et donc tout ça, ça permet que l'artiste se structure. Il vient jouer ou elle vient jouer sur le festival. En l'occurrence, Suzanne Bellobre viendra jouer donc le dimanche. Mais l'accompagnement ne s'arrête pas au festival, puisque dans les mois qui suivent, on reste en contact, en interlocution pour continuer à l'accompagner sur sa réflexion stratégique. Quoi. Mmh. Et donc là, on a accueilli plus d'une douzaine de groupes depuis 2012. Et on a eu des artistes comme La Pietà, comme Eclose l'année dernière, la rappeuse, comme Nuit, qui est un duo de chanteuses plutôt jazz. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant et de plutôt porteur pour les groupes, quoi.
Le dispositif est top, bravo pour cette initiative en tout cas. Ça lance des artistes sans aucun doute. Donc Suzanne Bellobre, dimanche 23 juillet, ouais. à retrouver sur scène.
Voilà, tout à fait.
On se fait un petit teasing.
Ouais.
Allez, on s'écoute Suzanne Bellobre sur FM+. On se retrouve juste après ça. À tout à l'heure.
Ah. Abandonné dans la, abandonné dans la, abandonné dans le rêve, rêve. Ah, habitué au débat, les hauts, les beaux débats, les débats de la reine, reine. Abandonné dans la, abandonné dans la reine, reine. Alice, 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 Alice,
On est où? Radio FM+.
Et oui, il y en a des choses à dire, il y en a des choses à dire dans cette interview d'été sur FM+. Eva, évidemment, Eva est là. Eva Savinska, j'étais obligé de te citer parce que c'est trop bien de t'avoir avec nous dans les studios de la Radio FM+. Merci beaucoup d'être là. Et vous. Si tu veux intervenir, quand tu veux, tu me fais des happenings comme ça d'un coup en plein milieu d'interview, moi j'adore ça. Toujours avec notre ami Sébastien Toureil, organisateur des Trans 7 Halls, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Les Trans 7 Halls, c'est 22 et 23 juillet à Sumène, à ne pas rater, c'est dans le Gard, les enfants, festival éclectique et indépendant, ça fait 26 ans que ça existe, c'est énorme. Et il y a plein de choses à dire, évidemment. Déjà, peut-être parler de ce que l'on vient d'entendre, une certaine Suzanne Bellobre qui va se produire le 23 juillet précisément. Et ce titre, Alice Alice, très beau, Sébastien, Alice Alice.
Oui. Bah, Suzanne, on est sur une artiste qui a un certain talent, on l'a vu, hein, pour écrire des mélodies, pour écrire des morceaux. Ouais. Elle a des textes plutôt intéressants. Et la formule qu'elle va présenter sur l'ouverture de cette soirée du dimanche, c'est donc un duo. Elle sera, elle, au chant et clavier, accompagnée d'un batteur, ouais. Milan. Et voilà, donc on est sur un format atypique, hein, pour de la chanson pop. expérimentale, je ne sais pas trop comment on peut la classifier, c'est très difficile aujourd'hui de classifier la musique, mais encore une fois, une artiste avec une singularité, et je crois que c'est ça le fil rouge un petit peu de la programmation des Trans 7 Halls, c'est ce côté non aseptisé des propositions artistiques, quoi. On essaie de vraiment d'aller dénicher des individualités qui vont apporter quelque chose d'un peu original, quoi.
Et on le disait déjà depuis le début de cette interview, plein de beaux artistes et de belles compagnies à découvrir le 23 et le 23 juillet. C'est quoi la technique, Sébastien, pour réussir à faire venir tout ce beau monde?
Ah ben, c'est un boulot de toute l'année, hein, oui. Voilà. Donc y a déjà un travail de repérage artistique, hein, comme je l'ai dit. Donc constamment, il faut être un peu sur la route, aller découvrir des artistes, avoir les oreilles et les yeux grands ouverts, et puis prendre contact, négocier, s'assurer des disponibilités, etc. Puis essayer de construire mettre en place une espèce de cohérence aussi dans la programmation. Alors ça paraît pas évident quand on voit la globalité du programme, mais moi je sais que dans ma tête, à certains endroits, il y a des choses qui se font écho les unes avec les autres, quoi. Ouais. Sur les soirées musicales, c'est pas forcément les mêmes styles musicaux, mais il y a une progression de l'énergie sur scène qui moi me paraît cohérente. Et puis sur les spectacles de rue, ça va être sur des équilibres entre des genres de propositions artistiques ou des contenus, des propos aussi qui sont défendus par les artistes. Donc nous, moi j'aime bien, on aime bien cette diversité en fait de ce qu'on propose. C'est pareil, hein, la journée, la soirée du dimanche, elle est atypique, hein, entre Suzanne Bellobre, derrière on a MPL, donc groupe grenoblois de chansons pop, ouais. Un peu festive, et encore derrière ça fait avec sa rencontre de musique du monde, entre musique d'origine un peu maghrébine, française, africaine, etc., soul, chanson, ouais. C'est tout ce mélange là, donc toutes ces choses là se répondent les unes aux autres finalement.
Donc ça c'est côté artiste, ouais. Et côté public, justement cette grande diversité là, ça crée un festival grand public, c'est pour tout le monde.
Oui, nous on revendique vraiment ce côté très populaire. Encore une fois, voilà, les arts de la rue, la gratuité, ça permet aussi l'accessibilité, donc la diversité des publics. Et nous, on fait un travail de fond aussi, hein, toute l'année sur le village et sur le territoire, parce qu'on a aussi une saison itinérante. Et donc c'est aussi cette volonté toujours d'aller chercher des nouveaux publics, d'aller convaincre les gens qui se sentent pas forcément touché par le spectacle vivant, bah d'essayer d'être curieux, de faire l'effort. Et c'est vrai que le fait de faire des spectacles dans l'église du village, dans le temple, dans les rues, on va mobiliser un peu les personnes, voilà, du village qui, sans ça, peut-être ne seraient pas venues sur le festival. Donc tout ça, ça fait un public très éclectique, familial. On peut venir avec ses enfants, passer la journée, voir des spectacles tout public. On peut venir entre amis, il y a un camping, on peut passer faire la bringue, dormir sur place pour pas avoir à prendre la voiture. On peut venir quand on est une personne âgée, parce qu'il y a des concerts encore une fois au temple, à l'église, dans des lieux préservés du soleil, où on peut s'asseoir, où on est à la coule et tout. Voilà, c'est vraiment accessible à toutes et tous.
Ouais. Et pour attirer un petit peu du monde, il faut forcément communiquer. Oui. J'avoue, tout à l'heure, j'ai parlé d'Eva, j'ai pas présenté Eva, c'est pas bien. Eva, on peut t'appeler comment ? Tu es une agent, tu gères la communication, la promotion de ces...
Non, moi je suis une attachée de presse.
Attachée de presse, précisément.
Il y a Léa Bresson qui gère la communication, qui fait ça très très bien.
Ouais.
Déjà, je vous invite d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux des Trans7ol. Voir, il y a des teasers, il y a des photos d'artistes, il y a des descriptions. Vous trouvez plein d'infos.
Ouais.
Et ça vous donnerait envie de venir.
Waouh, incroyable. Merci pour ça. Ouais. C'est vrai qu'Eva fait un travail incroyable. Oui, c'est elle qui crée le lien aussi entre les médias. Et...
On est toute une équipe, quoi. Eva qui s'occupe effectivement des relations médias. Léa à la com. On a Graziella qui a la coordination.
Vrai,
Guillaume à la direction technique. Thomas à la production. On a un conseil d'administration de 12 personnes. Et on a 180 bénévoles le week-end du festival pour accueillir le public, etc. Donc c'est vrai que c'est un beau travail... collectif pour arriver à créer cet événement. Quoi.
Tout le monde est uni.
Ouais.
On est en 2023, Sébastien. Forcément, quand on parle de festival, maintenant, on parle de festival éco-responsable et engagé. Les Trans7ol tiennent vraiment à proposer un festival qui puisse répondre à ces contraintes-là, quasiment...
Oui, je crois que je pense que ça fait partie de l'ADN du festival et je dis ça sans greenwashing ou quoi que ce soit. Ouais. Dès le début des années 2000, déjà on avait réflexions avec d'autres festivals associatifs de notre taille. On avait créé une charte de festival. À l'époque, on parlait de développement durable, etc. On a fait partie des premiers événements à basculer à l'époque où c'était tout nouveau sur les Eco Cup, etc., etc. Et donc la question est revenue vraiment à l'ordre du jour. C'est un sujet plus que jamais d'actualité, comme la transition écologique, le problème du changement climatique, etc., d'une manière plus globale. Et la question de la décarbonation de la culture, elle est très présente. On parle beaucoup de l'impact environnemental des festivals, et notamment des grands événements qui vont rassembler des dizaines de milliers de personnes. Voilà, nous, à notre taille, on essaie d'apporter notre part à l'effort par des gestes, des petits gestes. On va promouvoir la mobilité, on va imprimer nos documents sur du papier... issus de forêts gérées durablement. On va faire des vaisselles participatives, on va travailler avec des agriculteurs locaux. Bon voilà, tout ce dispositif, on travaille sur le tri des déchets, les toilettes non chimiques, etc., etc. Quoi. Voilà, on est très attentif à ça et on essaie de le valoriser dans notre communication, mais on essaie aussi de sensibiliser le public présent sur le festival par l'organisation d'ateliers pendant la journée qui viennent compléter en fait la programmation hors de la rue. Donc on a un atelier fresque du climat, on a une clean walk qui va être organisée par l'association Partons du Bon Pied pour aller nettoyer un peu la rivière. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on essaie de mettre en place durant le week-end.
C'est devenu la base, mais c'est important de le lancer, de l'encourager. Oui. Bravo pour ça. Peut-être avant de se quitter, un petit mot sur les partenaires. Je crois qu'il y a une histoire d'Elvis Platiné. C'est quoi ça, Sébastien ?
Les Elvis Platiné, c'est le nom de l'association qui organise le festival Les Trans7ol et qui, à l'origine, en fait, était un groupe de musique dans les années 90 dans lequel je faisais partie avec quelques autres bénévoles historiques.
Oh,
et donc, on a fait quelques dates.
Tu étais chanteur.
Oui, j'étais chanteur. Et ouais, enfin bon. Et bien, du coup, on s'est vite arrêté quand même et on s'est vite rendu compte qu'on était meilleur organisateur que musicien. Et donc, du coup, on s'est orienté là-dessus. Quoi.
Je veux entendre ça pour mieux juger, savoir.
Il faut aller voir le documentaire sur les 20 ans du festival parce qu'il y a quelques images d'archives d'un concert au Rockstore en 1999.
Bon, voilà. On ira écouter ça. Peut-être des projets futurs pour les Trans7ol. On vous retrouvera l'année prochaine.
On nous retrouvera, je l'espère, l'année prochaine. Et puis, comme je disais, les Trans7ol, c'est aussi une saison itinérante tout au long de l'année. Donc, si tout va bien, normalement, on nous retrouvera dès cet automne avec des concerts sur Sumène et puis une tournée avec un spectacle en partenariat avec le Théâtre Albaret d'Agange. Voilà. Donc, on est là toute l'année, on travaille le territoire par de la diffusion de spectacles ou par de l'accompagnement à la création d'artistes régionaux.
Les rendez-vous sont posés, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Merci encore Sébastien Toureil. Je rappelle que tu es organisateur du festival Les Trans7ol qui se déroule du 22 et le 23 juillet à Sumène dans le Gard, à ne pas rater. Festival éclectique, on le disait, indépendant, 26e édition, il faut aller voir ça, gratuit en journée, et puis le soir, ça reste super accessible quand même, entre 13 euros en pré-vente jusqu'à 25 euros sur place. Il y aura forcément de quoi faire votre bonheur, cher auditeur, cher auditrice. Tu es venu accompagner aujourd'hui d'Eva Savinska, attachée de presse. Merci pour cette rencontre, parce que c'est vrai qu'on parle à distance et on se rencontre enfin dans les studios de la radio FM+.
Merci Rija, merci FM+.
Pour passer quand vous voulez tous les deux.
Ah merci.
Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur et j'ai envie de dire au 22 juillet.
Au 22 juillet.
Merci encore. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était votre interview d'été. On se retrouve très bientôt évidemment pour une nouvelle interview comme d'habitude. Allez, bonne journée. Bye bye.